Una facile ascolta.
On écoute facile.
Sa ascolti este ușor.
Französisch leicht
Galimera. Gemacht. Mathenu ke milau gallica.
Yes, I would like to speak easily in French.
Apprenez le français.
Haideți să vorbim limba franceză.
Let's learn French together.
Parles-tu français?
Parles-tu français?
Parle francese.
Je veux parler facilement le français.
Quelle chance de parler facilement le français.
Französisch auf leichte Weise.
On écoute facile.
Sur Canal Academy, un espace dédié à l'apprentissage du français, on retrouve Daniel Jeanne et Virginia Crespo.
Bonjour Virginia.
Bonjour Daniel. Quel est l'animal que nous évoquons aujourd'hui dans ce nouveau numéro d'écoute facile consacré aux académiciens qui ont écrit sur nos amis les animaux?
J'ai choisi le lion, le roi des animaux. Tel qu'il est décrit par un naturaliste du XVIIIe siècle très connu et déjà célèbre à son époque. Il m'a semblé incontournable.
Je devine, Daniel, qu'il s'agit de Buffon, dont les beaux livres illustrés ont traversé les siècles.
Exactement. Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, est né à Montbard, en Bourgogne, en 1707. Savez-vous qu'il est élu à 26 ans à l'Académie des sciences pour ses travaux en mathématiques statistiques? Cet homme est au départ une sorte d'ingénieur, doublé d'un industriel. Il est maître des forges de Montbard. Il s'intéresse de près à la gestion de son domaine, de ses forêts. Il aime par-dessus tout se retirer dans la tour de son château bourguignon pour écrire. Rousseau dira qu'il a la plus belle plume de son siècle.
Pendant 50 ans, Buffon rédige et publie régulièrement les 36 volumes de son Histoire naturelle. Il devient membre de l'Académie française en 1753. Lors de sa réception, il prononce son discours sur le style.
En 1739, Buffon est nommé par le roi Louis XV, intendant des jardins du roi à Paris. C'est notre actuel Jardin des Plantes. Buffon s'entoure de collaborateurs qu'il choisit avec discernement. Il recrute des peintres et des graveurs. Il entretient une vaste correspondance avec des voyageurs, des savants étrangers, des marins, des missionnaires, des chasseurs. Son œuvre scientifique touche à la géologie, la biologie générale et la zoologie.
Dans son Histoire naturelle, 14 tomes sont consacrés à la description du règne animal, les oiseaux et les quadrupèdes.
Aujourd'hui, je voudrais faire découvrir à nos auditeurs des extraits d'une monographie sur le lion. C'est une étude complète de cet animal sauvage. Le lion n'a jamais habité les régions du Nord. Le renne ne s'est jamais trouvé dans les contrées du Midi. Et il n'y a peut-être aucun animal dont l'espèce soit comme celle de l'homme, généralement répandue sur toute la surface de la Terre. Chacun a son pays, sa patrie naturelle dans laquelle chacun est retenu par nécessité physique. Chacun est fils de la terre qu'il habite. Et c'est dans ce sens qu'on doit dire que tel ou tel animal est originaire de tel ou tel climat. Dans les pays chauds, les animaux terrestres sont plus grands et plus forts que dans les pays froids ou tempérés. Ils sont aussi plus hardis, plus féroces. Toutes leurs qualités naturelles semblent tenir de l'ardeur du climat. Le lion, né sous le soleil brûlant de l'Afrique ou des Indes, est le plus fort, le plus fier, le plus terrible de tous.
Buffon trace ensuite le portrait moral du lion. Nous vous écoutons, Daniel, dans la lecture de cet extrait de texte signé Buffon.
Dans les vastes déserts du Sahara, dans ceux qui semblent séparés de races d'hommes très différents, les nègres et les maures, entre le Sénégal et les extrémités de la Mauritanie, dans les terres inhabitées qui sont au-dessus du pays des Hottentots, et en général, dans toutes les parties méridionales de l'Afrique et de l'Asie, où l'homme a dédaigné d'habiter, les lions sont encore en assez grand nombre, et sont tels que la nature les produit. Accoutumés à mesurer leur force avec tous les animaux qu'ils rencontrent, l'habitude de vaincre les rend intrépides et terribles. Ne connaissant pas la puissance de l'homme, ils n'en ont nulle crainte. N'ayant pas éprouvé la force de ses armes, ils semblent les braver. Les blessures les irritent, mais sans les effrayer. Ils ne sont pas même déconcertés à l'aspect du grand nombre. Un seul de ces lions du désert attaque souvent une caravane entière, et lorsqu'après un combat opiniâtre et violent, ils se sentent affaiblis, au lieu de fuir, ils continuent de se battre en retraite, en faisant toujours face et sans jamais tourner le dos. Les lions, au contraire, qui habitent aux environs des villes et des bourgades de l'Inde et de la Barbarie, ayant connu l'homme et la force de ses armes, ont perdu leur courage, au point d'obéir à sa voix menaçante, de n'oser l'attaquer, de ne se jeter que sur le menu bétail, et enfin de s'enfuir en se laissant poursuivre par des femmes ou par des enfants qui leur font, à coups de bâton, quitter prise et lâcher indignement leur proie. Ce changement, cet adoucissement dans le naturel du lion, indique assez qu'il est susceptible des impressions qu'on lui donne et qu'il va avoir assez de docilité pour s'apprivoiser jusqu'à un certain point et pour recevoir une espèce d'éducation. Aussi, l'histoire nous parle de lions attelés à des chars de triomphe, de lions conduits à la guerre ou menés à la chasse, et qui, fidèles à leur maître, ne déployaient leur force et leur courage que contre ses ennemis. Sa colère est noble, son courage magnanime, son naturel sensible. On l'a souvent vu dédaigner de petits ennemis, mépriser leurs insultes et leur pardonner des libertés offensantes. On l'a vu réduit en captivité, s'ennuyer sans s'aigrir, prendre au contraire des habitudes douces, obéir à son maître, flatter la main qui le nourrit, donner quelquefois la vie à ceux qu'on avait dévoués à la mort en les lui jetant pour proie. On pourrait dire aussi que le lion n'est pas cruel, puisqu'il ne l'est que par nécessité, qu'il ne détruit qu'autant qu'il consomme et que dès qu'il est repu, il est en pleine paix.
Ensuite vient la description physique de l'animal qui ne dément point ses grandes qualités intérieures. Ce thème est d'ailleurs cher à Buffon. L'extérieur du lion, écrit Buffon, ne dément point ses grandes qualités intérieures. Il a la figure imposante, le regard assuré, la démarche fière, la voix terrible. Sa taille n'est point excessive comme celle de l'éléphant ou du rhinocéros. Elle n'est ni lourde comme celle de l'hippopotame ou du bœuf, ni trop ramassée comme celle de l'hyène ou de l'ours, ni trop allongée ni déformée par des inégalités comme celle du chameau. Mais elle est au contraire si bien prise et si bien proportionnée que le corps du lion paraît être le modèle de la force jointe à l'agilité. Aussi solide que nerveux, n'étant chargé ni de chair ni de graisse, et ne contenant rien de surabondant, il est tout nerfs et muscles. Cette grande force musculaire se marque au dehors par les sauts et les bonds prodigieux que le lion fait aisément, par le mouvement brusque de sa queue, qui est assez fort pour terrasser un homme, par la facilité avec laquelle il fait mouvoir la peau de sa face et surtout celle de son front, ce qui ajoute beaucoup à la physionomie, ou plutôt à l'expression de la fureur, et enfin par la faculté qu'il a de remuer sa crinière, laquelle non seulement se hérisse, mais se meut et s'agite en tous sens lorsqu'il est en colère. Les lions de la plus grande taille ont environ 8 ou 9 pieds de longueur, depuis le mufle jusqu'à l'origine de la queue, qui est elle-même longue d'environ 4 pieds. Ces grands lions ont 4 ou 5 pieds de hauteur. Les lions de petite taille ont environ 5 pieds et demi de longueur sur 3 pieds et demi de hauteur et la queue longue d'environ 3 pieds. La lionne est dans toutes les dimensions d'environ un quart plus petite que le lion. Le lion porte une crinière, ou plutôt un long poil qui couvre toutes les parties antérieures de son corps et qui devient toujours plus longue à mesure qu'il avance en âge. La lionne n'a jamais ses longs poils, quelque vieille qu'elle soit. Après cette description de l'extérieur de l'animal, Buffon évoque ses mœurs, ce qu'il appelle son histoire. Nous écoutons Daniel Jeanne dans l'extrait de cette lecture.
Les lions sont très ardents en amour. Lorsque la femelle est en chaleur, elle est quelquefois suivie de 8 à 10 mâles qui ne cessent de rugir autour d'elle et de se livrer des combats furieux jusqu'à ce que l'un d'entre eux, vainqueur de tous les autres, en demeure paisible possesseur et s'éloigne avec elle. La lionne met bas au printemps et ne produit qu'une fois tous les ans, ce qui indique encore qu'elle est occupée pendant plusieurs mois à soigner et allaiter ses petits et que par conséquent, le temps de leur premier accroissement, pendant lequel ils ont besoin des secours de la mère, est au moins de quelques mois. Dans ces animaux, toutes les passions, même les plus douces, sont excessives et l'amour maternel est extrême. La lionne, naturellement moins forte, moins courageuse et plus tranquille que le lion, devient terrible dès qu'elle a des petits. Elle se montre alors avec encore plus de hardiesse que le lion. Elle ne connaît point le danger. Elle se jette indifféremment sur les hommes et sur les animaux qu'elle rencontre. Elle les met à mort, se charge ensuite de sa proie, la porte et la partage à ses lionceaux, auxquels elle apprend de bonne heure à sucer le sang et à déchirer la chair. D'ordinaire, elle met bas dans des lieux très écartés et de difficile accès, et lorsqu'elle craint d'être découverte, elle cache ses traces en retournant plusieurs fois sur ses pas, ou bien elle les efface avec sa queue. Quelquefois même, lorsque l'inquiétude est grande, elle transporte ailleurs ses petits, et quand on veut les lui enlever, elle devient furieuse et les défend jusqu'à la dernière extrémité. Le lion, lorsqu'il a faim, attaque de face tous les animaux qui se présentent. Mais comme il est très redouté et que tous cherchent à éviter sa rencontre, il est souvent obligé de se cacher et de les attendre au passage. Il se tapit sur le ventre dans un endroit fourré, d'où il s'élance avec tant de force qu'il les saisit souvent du premier bond. Dans les déserts et les forêts, sa nourriture la plus ordinaire sont les gazelles et les singes. Quoiqu'ils ne prennent ceci que lorsqu'ils sont à terre, car ils ne grimpent pas sur les arbres comme le tigre ou le puma. Il mange beaucoup à la fois et se remplit pour 2 ou 3 jours. Il a les dents si fortes qu'il brise aisément les os et il les avale avec la chair. On prétend qu'il supporte longtemps la faim. Comme son tempérament est excessivement chaud, il supporte moins patiemment la soif et boit toutes les fois qu'il peut trouver de l'eau. Il prend l'eau en lapant comme un chien. Il lui faut environ 15 livres de chair crue chaque jour. Il préfère la chair des animaux vivants, de ceux surtout qu'il vient d'égorger. Il ne se jette pas volontiers sur des cadavres infects, et il aime mieux chasser une nouvelle proie que de retourner chercher les restes de la première. Mais quoique d'ordinaire il se nourrisse de chair fraîche, son haleine est très forte et son urine a une odeur insupportable. Le rugissement du lion est si fort que quand il se fait entendre par écho la nuit dans les déserts, il ressemble au bruit du tonnerre. Ce rugissement est sa voix ordinaire, car quand il est en colère, il a un autre cri, qui est court et réitéré subitement. au lieu que le rugissement est un cri prolongé, une espèce de grondement d'un ton grave mêlé d'un frémissement plus aigu. Il rugit 5 ou 6 fois par jour, et plus souvent lorsqu'il doit tomber de la pluie. Le cri qu'il fait lorsqu'il est en colère est encore plus terrible que le rugissement. Alors il se bat les flancs de sa queue, il en bat la terre, il agite sa crinière, fait mouvoir la peau de sa face, remue ses gros orteils, montre des dents menaçantes et tire une langue armée de pointes si dures qu'elle suffit seule pour écorcher la peau et entamer la chair sans le secours des dents ni des ongles qui sont, après les dents, ses armes les plus cruelles. La chair du lion est d'un goût désagréable et fort. Cependant, les nègres et les indiens ne la trouvent pas mauvaise et en mangent souvent. La peau qui faisait autrefois la tunique des héros sert à ces peuples de manteaux et de lits. Ils en gardent aussi la graisse, qui est d'une qualité fort pénétrante et qui même est de quelque usage dans notre médecine.
Cette monographie dont vous venez d'écouter tout au cours de cette émission plusieurs extraits comporte aussi des illustrations, des tables, des mensurations précises et détaillées du lion. Et c'est en général Daubenton, qui était l'ami, le collaborateur du comte de Buffon, qui s'occupait des dissections et de l'anatomie.
Pour en savoir plus sur l'incroyable vie du comte de Buffon, je vous invite à écouter sur Canal Académie l'émission d'Émilie Julia, datée du mois d'août 2007.
Merci Daniel Jeanne d'avoir préparé cette émission et d'avoir lu ces très beaux textes du comte de Buffon. Et merci à vous tous de votre fidélité à l'écoute des programmes de Canal Académie.